Voilà, en tout cas, c'est une joie hein, de pouvoir nous retrouver. Il fait frais ici, on est bien. Hein? Alors, on va ouvrir le premier livre de Samuel, chapitre 25. Au verset 2, on nous dit qu'il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis, 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était non pas Nadal, Raphaël, non, c'était Nabal. Eh oui, sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb, pourtant Caleb, ça avait été, et c'est toujours un modèle, hein. Eh oui. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes hommes auxquels il dit « Montez à Carmel, allez après Nabal, vous le saluerez en mon nom. Et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David ? Et qui est le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Les gens de David reboussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens, « Que chacun de vous saigne son épée. » Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaïl, femme de Nabal, « Voici David a envoyé au désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux faisant paître les troupeaux. Sache maintenant, et je vois que tu as affaire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on n'ose lui parler. » Abigaïl prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de sang, de figues, et les mit sur des ânes. Et elle le dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens gardés descendirent en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé, tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, quoi que ce soit, ou qui que ce soit, de tout ce qui appartient à Nabal. Amen. Alors l'histoire d'Abigaïl se joue environ il y a 3000 ans. Abigaïl était une femme de bon sens, belle de figure, nous l'avons lu ensemble. Abigaïl veut dire « mon père est joie ». Mon père est joie. Amen. Alors on donnait leur nom aux enfants juifs que 8 jours après leur naissance. Alors les parents, eh bien, ils avaient une bonne semaine pour choisir son nom. Hein. Ils le faisaient selon le caractère de leur enfant, hein, ce qui leur sautait aux yeux. Voilà, eh bien, on l'appellera comme cela. Abigaïl était probablement un bébé si heureux et que ses parents lui ont donné ce beau nom, hein, « Mon père est joie ». En fait, nous devrions tous nous appeler des Abigaïl. Non ? Hein ? Hein ? On devrait s'appeler des Abigaïl tous. Hein ? Dieu, notre Père, est le Père de la joie. Alléluia ! Eh oui ! Le ciel est un endroit joyeux. Eh oui ! 1 Chronique, chapitre 16, 26 et 27, ne le cherche pas, je crois pas que je te l'ai donné. Il est dit, la majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. Amen. Le psalmiste dit ceci, tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Alors bien sûr, nous ne devons pas attendre notre entrée, je dirais, dans la patrie céleste ou au ciel, pour eh bien, recevoir la joie du Seigneur. Parce qu'il est déjà ici-bas, hein, on peut recevoir la joie du ciel, la joie du Seigneur, vous ne croyez pas ? Certains la recherchent dans d'autres moyens, avec d'autres moyens que ceux-là que nous avons, nous. Hein, mon épouse me dit, j'ai été réveillé en sursaut, il y en a qui étaient en train de jacasser dans la rue à 2-3 heures du matin. Hein. Et oui, parce qu'ils faisaient la fête, donc ils étaient joyeux, mais ce n'est pas la même joie. Hein, ce n'est pas la même joie. Hein. Le psalmiste dira si tu as ceci, tu as changé mes lamentations en allégresse, tu m'as ceint de joie. Le psaume 34, verset 5, ne cherchez pas. Hein. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. 35, 10, Esaïe. Hein. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Et un dernier. 1 Pierre 1, 8, vous l'aimez sans l'avoir vu, en qui croyez-vous sans le voir encore ? En lui, bien sûr, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Alors, bien sûr que nous sommes destinés à la joie. Amen. Dieu, la source de la joie, il veut que justement nous soyons joyeux. Quand ? Combien de temps ? Éternellement. Eh oui, la volonté de Dieu pour chacun de nous, on le sait, c'est la vie éternelle. Et nous y sommes déjà rentrés puisque nous avons accepté tout simplement le plan de salut pour nous. Hein, tout simplement, alors que nous jouissions éternellement de sa joie, eh bien qu'il nous réserve déjà ici-bas et que nous aurons encore au ciel. Mais Abigaïl, pour revenir à elle, elle ne connaissait guère cette joie. La raison ? Il arrive qu'on le dise, hein, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Mais là, c'était vrai. Hein, c'est la faute de son mari, Nabal. Je reviens, hein, Nabal, il ne faut pas que je me trompe. Le nom de Nabal signifie, en espagnol, c'est tonto, la cabeza. Hein. Il était fou. Ça signifie fou. Hein, fou. Hein. Alors, on se demande comment certains parents vont chercher des noms à leurs enfants. Oh, le fou, viens! Vous rendez compte un peu? Hein? Moi, je vais dans le village des voisins, et ils avaient appelé leur enfant Jésus. Alors, c'était des Espagnols, ils disaient Jesús, viens! Alors, c'était bien. Moi, déjà, ça me préparait. Hein? Eh oui, parce que c'était des voisins. Hein? Eh oui, Jésus. Eh oui. Alors, Nabal était éleveur de bétail, il était très riche. Mais il était aussi très dur, très méchant. Hein? Il n'était pas simplement rigoureux, il était méchant. Et ça veut tout dire. Alors Abigaïl et Nabal habitaient les collines au pied du Carmel, à la limite du pays des Philistins. Les Philistins, c'était les ennemis du peuple de Dieu. Nabal et ses collègues devaient leur prospérité en partie justement à David. Il y avait 600 hommes qui étaient avec David et quelque part, il les protégeait. Il les protégeait des Philistins. Et c'était leur voisin tout proche. C'était vite fait de rentrer. Hein. Il n'y avait pas les gardes frontières. Il n'y avait rien hein, à ce moment-là. Hein. D'ailleurs, on ne savait même pas qu'on était en Israël, qu'on était chez les Philistins. Hein, parce qu'il n'y avait pas de ligne Maginot ou ce que vous voulez. Hein. Non, au contraire. Donc, alors, c'était libre. Alors, normalement, qu'est-ce qui se passe quand on a, quelque part, on doit à quelqu'un qui nous a fait du bien. Hein, on est redevable. Là, ils étaient redevables, hein, en remerciement. Eh bien, les fermiers, les éleveurs donnaient régulièrement à David des vivres, hein, de l'alimentation, des vêtements, un petit prix ou même des fois cadeau. Hein. Voilà. Alors, pour eux, c'était un petit prix. Parce que s'il avait fallu qu'ils se payent une armée pour garder leur troupeau ou pour les aider à garder leur troupeau, eh bien, ça aurait coûté beaucoup plus cher. Alors voilà, nous arrivons à ce jour, un jour de printemps. C'est le temps de tondre les brebis, temps de fête également, normalement temps de générosité. Hein, un temps de réjouissance, un temps de générosité. Donc David le sait, c'est le moment, c'est l'époque, j'ai entendu qu'ils y sont, ça y est. Donc David envoie une dizaine d'hommes, tout simplement à Nabal, pour demander quelque part sa contribution. Hein. Ah oui. Alors sa réponse, nous l'avons lu ensemble. Hein. Quoi ? Vous ne connaissez pas, vous ? David, tu ne connais même pas. Menteur. David avait quand même une certaine réputation. Ses 600 hommes étaient avec lui, hein, même s'il n'était pas encore le roi. Eh bien, il savait que c'était David. Hein. Alors, sa réponse, elle est là, bien sûr. Et les hommes de David reviennent les mains vides. Le cœur gros, je pense. Parce que quand même, ce n'est pas juste. Eh oui. Alors, David, quelque part, allait apprendre une bonne leçon à Nabal. Hein. Il va se mettre en route. Et il demande à chacun de scindre son épée. Donc, ce n'était pas pour la fête. Hein. Certainement pas. Non. Alors, en route, il rencontre sa femme, Abigail. Elle, lorsque ses hommes sont venus, quelque part, demander ce qui leur était dû, eh bien, elle n'était pas avec Nabal. Elle n'était pas à la maison non plus. Elle n'était pas au courant. Et puis, il y a un de ses serviteurs qui vient lui expliquer ce qui s'était passé. Et là, elle est en train de rentrer à la maison. Alors, il lui explique ce qui s'est passé. Et il lui dit, tu sais, David, il rigole pas. Hein. J'ai entendu que ça y est, ils sont armés, ils arrivent, ils sont 400. Ils sont 400. Ça va faire des dégâts. Tu vas tout perdre. Alors, vous savez, il y a beaucoup d'Abigaïl destinés par Dieu à la joie et au bonheur, mais quelque part qui sont attachés, allez, ou écrasés, ou broyés, ou tenus stériles par un Nabal. Alors, un Nabal ne doit pas nécessairement être un mari. Il peut être, je dirais, tout autre chose, quelque chose qui quelque part, nous prive de la joie. Ronge notre joie, la détruit. Eh oui. Adam et Ève ont été des Abigaïl. Pas mal de temps, hein, bien sûr. Jusqu'au jour où leur Nabal, Satan, l'ennemi, va justement, sous forme de ce serpent, eh bien, leur voler leur bonheur et leur joie. Eh oui, pourtant, c'était des Abigaïl. Eh oui. Vous vous souvenez le jour où vous êtes converti, où vous avez dit oui au Seigneur. Quelle joie, quel bonheur. Et après, il y a eu du chemin. Et combien de Nabal sont venus ? Ils n'ont plus versé des larmes, ceux-là. Eh oui. Alors, y a-t-il un Nabal dans ta vie ce soir ? Quelque chose ou quelqu'un qui t'empêche tout simplement d'être joyeux. Ça peut être, j'ai pris plusieurs choses, mais voilà, un mariage malheureux. Qu'est-ce qu'on trouve encore ? Des problèmes au travail, des difficultés, quelqu'un qui est pas honnête. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Dans les relations également, ça peut être difficile. Donc voilà, les Nabal, ils sont là. La solitude, la dépression, la déception, la maladie, et j'en passe. Parce que vous pouvez mettre le nom qui vous convient, hein, qui est pour vous, ce Nabal. Eh oui. Alors, Abigail, elle était mariée avec Nabal. Donc, on ne pouvait pas s'en défaire, hein, bien sûr. Pourtant, ce chapitre ne va pas se terminer dans la tristesse, mais dans une grande joie. Il vaut mieux la fin que son commencement, hein, d'une chose. Parce que la fin, c'est important. Hein. Il faut que ça se termine bien. Alors, comment ? Comment ça va se terminer en joie, alors que c'était triste, c'était difficile, c'était lourd, c'était pesant ? Eh bien, c'est la foi. La foi. Eh oui. Ce petit bout de, vous savez, ce petit grain de sénévé là, de petit grain de moutarde. Hein, moutarde à l'ancienne, c'est le grain de sénévé, hein, ça ressemble à ça. Alors, les circonstances d'Abigail, son mariage, son mari, bien sûr, c'était une grande, grande déception. Elle en souffrait. Mais Abigail croyait vraiment au Dieu vivant et vrai. Elle croyait en lui. La preuve, c'est qu'elle continuait à croire en Dieu malgré les contre-coups qu'elle avait continuellement. Malgré ce qu'on lui rapportait, malgré ce que, eh bien, cet homme devait être capable de lui faire. Alors, chacun peut croire en Dieu quand tout va bien. Ah, le Seigneur est formidable. Si vous saviez. Oh là là. Il est extraordinaire. Ben oui, tout va bien. Ah oui, oui, oui. Mais seule la vraie foi persévère justement dans les épreuves. Dans les épreuves. Abigaïl mettait sa confiance en Dieu. Je dirais, voilà la différence entre la foi là, dans la tête, et la foi là, dans le cœur. Pas beaucoup, il y a 40 centimètres. Hein ? Ça dépend du cou, hein, c'est la longueur du cou, voilà. Mais c'est le plus important, la foi qu'il y a dans le cœur. Ouais, je crois en toi, Seigneur. Tout peut s'écrouler, je sais que tu es là. Amen. Tout peut être contre moi. J'ai rien fait de mal, donc je ne peux rien me reprocher. Mais l'adversaire ne triomphera pas, parce que j'ai foi en toi. Amen. Bien sûr qu'elle avait perdu sa confiance en son mari, hein. Mais pense en Dieu. Sa foi en Dieu, justement, a gardé son cœur dans la paix. L'a gardé lucide, droite. Et on a besoin, dans les moments où ça chauffe, où c'est la tempête, de ne pas se tromper. Ne pas se tromper, c'est important. Hein. Témoignage d'une femme qui a vécu 53 ans avec un mari incrédule. Vous savez, il faut que ça passe là. Hein. Ah oui. Alors elle a prié pendant 53 ans pour la conversion de son mari. Pendant 53 ans, pas d'exaucement. Waouh, c'est dur. On a des sœurs ici qui y passent en ce moment. Hein. Puis voilà qu'il s'est converti. 53 ans après. Alors, est-ce qu'il a fallu prier pendant 53 ans avant que Dieu entende sa prière? Dites-moi. Qu'est-ce qui se passe alors? Ben, il a fallu quand même 53 ans pour que son mari entende la voix de Dieu. Jusque-là, il voulait pas l'entendre. Et on sait qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui veut pas entendre. Eh oui. Donc, c'est pas la faute de Dieu. Quelquefois, on se décourage en disant, non, non, mais c'est lui qui se ferme à Dieu. Donc, ouvre-lui le cœur, Seigneur. Ouvre-lui les oreilles. Hein. Il y a un homme, sa femme lui disait, viens, viens, viens au Seigneur, viens écouter l'évangile. Et un jour, il lui a dit, écoute, je vais faire une chose. Je viens une fois. Une fois. Et après, tu me fous la paix. D'accord? Donc, il est venu. Il est venu, et lui, il avait dit, je viens, mais je n'ai pas dit ce que j'allais faire. Donc, je vais me boucher les oreilles. Voilà qu'il avait ses deux mains comme ça. Un micro. Non, c'est une mouche. Une mouche qui était devant son visage, qui se bougeait devant son nez, là, et elle le chatouillait. Et puis, à un moment donné, hop, il l'a enlevé. Et là, le pasteur disait, que celui qui a des oreilles entende. Ce que lui dit le Seigneur. Et là, il a été bouleversé. Il a été bouleversé parce qu'il devait entendre cela. Nous, des fois, on se pose des questions, mais comment il va faire le Seigneur? Laisse-le faire. Fais-lui confiance. Amen. Et lui, il saura se dépatouiller de ce cœur incrédule et dur, fermé, hein, double, triple, quadruple tour. Mais lui, il va l'ouvrir. Amen. Il saura comment faire. Hein. Amen. Alors, voici comment nous devons nous comporter vis-à-vis de nos familles inconverties. Les aimer toujours, même quand ils sont pénibles et difficiles. Quand on dirait qu'ils le font exprès de faire le contraire de ce qu'on leur dit. Mais il faut les aimer. Hein? Priez pour eux, combien de fois? Allez, toujours. Oui, c'est simple. Hein? Priez pour eux, toujours. Toujours être un exemple pour eux. Hein? Et ça, c'est peut-être le plus dur. Parce qu'il faut être un bon exemple. Amen, il faut être un bon exemple. Parfois témoigner et souvent se taire. C'est quand Marie-Paul me disait plus rien que Bernard, il a commencé à chercher. Elle ne me dit plus rien. Oh, pourtant, elle m'avait parlé. Hein. Elle avait laissé des versets sur les murs, partout. Je ne les ai jamais vus. Quand on invitait des amis à la maison, je lui disais, tu ne parles pas de Jésus. Je ne veux pas que tu en parles. Sérieux. Puis un jour, elle ne m'en parle plus. Ça ne marche plus. Si, il fonctionne le micro. Mais pour elle, je dis, ça ne marche plus entre eux. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que j'ai voulu chercher à savoir. C'est tout bête, hein? Bon, c'était le temps de Dieu. Ah, il avait bien travaillé mon cœur. Ah, il avait bien labouré à l'intérieur. Il avait enlevé quelques pierres, quelques épines, beaucoup d'épines, je pense. Hein. Oui, oui. Voilà. Mais c'est comme ça. Hein. Alors, être un exemple pour eux, souvent se taire. Que dit Pierre ? Femme. Homme. On va dire pour les femmes. Hein. Soyez de même soumises à vos maris afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Alors, ceci est valable pas seulement pour les dames. Hein. Eh oui, parce que les hommes aussi doivent être des modèles. Amen. Eh oui. Eh oui. Je ne suis pas chrétien que lorsque je viens aux réunions. H24. 24 heures sur 24. Je suis chrétien. Oh, tu ris. Mais oui, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Elle va également le protéger contre les autres, contre lui-même déjà, parce que c'est un phénomène. Hein ? Nabal, là, dans cet épisode particulier, le fou, il a fait une gaffe énorme. Une gaffe énorme, hein ? Mais Abigail, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle ne va pas aller voir les voisines et les voisins, leur dire « Mon mari, il en a fait encore une belle !» Non, non, pas du tout. Hein. Elle ne noircit pas son mari auprès des autres. Elle s'adresse directement à David. Directement à David. Qu'est-ce qu'elle va lui dire ?« David, écoute, il l'a bien mérité, mais lui, une correction magistrale. Eh oui, oui, c'est sa propre faute. Eh, il moissonne ce qu'il a semé finalement. Vas-y, liquide-le. » Non, il ne dit pas ça. Non, non, il ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle intercède pour Nabal. Elle intercède pour Nabal. Elle essaie de le sauver de toute condamnation et de toute punition. Eh, vous regarderez à nouveau le verset 25, la première partie. Alors, Jésus dit dans l'évangile de Luc, lui aussi, il aurait pu dire, il le mérite, ce sont des pécheurs. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Abigail fait plus encore. Formidable, c'est un parallèle formidable. Hein. Elle prend la culpabilité de son mari sur elle-même. C'est-à-dire qu'elle se charge, elle. Elle qui est innocente, hein. 1 Samuel 25, verset 25. Comme le Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens de mon Seigneur, que mon Seigneur a envoyés. Verset 28. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante. Faute de quoi? De pas être là? Il aurait fallu qu'elle l'accompagne à H24, lui aussi. 7 jours sur 7. Non, non. Elle prend la faute de son mari sur elle. Eh oui. Exactement ce que Jésus a fait pour nous. Pour nous, les Nabal. Hein. Parce que quelque part, avant de se convertir, il y avait un peu de folie chez moi. Hein. Je ne sais pas chez vous. Mais chez moi, il y en avait un peu. Hein. D'ailleurs, nous étions tous des pécheurs. Hein. Nous méritions tous la punition. Hein. Que dit Romain hein. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous ont péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Heureusement qu'il y a Jean 3,16. Hein. Vous ne croyez pas ? Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est mort à la croix pour nos fautes, pour nos péchés. Amen. Il a pris lui-même la malédiction qui nous revenait. Il a payé le prix tout simplement par son sang. Et le prix qui nous revenait, c'était la perdition éternelle. Eh bien, il nous a lavé, il nous a purifié. Il a fait de nous de nouvelles créatures. Est-ce que nous suivons l'exemple d'Abigaïl? Il faut. Hein? Par exemple, au lieu de critiquer les autres au sujet de leurs péchés, est-ce que nous prenons soin de les couvrir tout simplement, eh bien, du manteau de l'amour? Eh ouais. Le manteau de la compassion. C'est important, hein. C'est des principes bibliques qui sont des principes de base, bien sûr. Hein. Que dit Pierre? Ayez, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, un ardent amour. Car la charité couvre une multitude de péchés. Donc, elle va le protéger contre lui-même. Non seulement contre les autres, il nous arrive de nous défendre également un membre de la famille vis-à-vis des autres, mais nous-mêmes, quelquefois, est-ce que nous n'interrompons pas? Eh oui, c'est important hein, de réfléchir à ces choses-là. Alors qu'après qu'Abigaïl a détourné la colère de David et, je dirais ainsi, sauvé la vie de son mari, sa vie aussi, hein, c'est bien aussi parce que David, il prenait tout. Hein. Eh oui, oui. Elle rentre chez elle et là, comment est-ce qu'elle le trouve? Il était torché, complètement torché. C'est-à-dire qu'il était ivre. Il avait bu, il a fait la fête, il ne s'est même pas rendu compte qu'elle était là. Hein. Et oui, elle est tout vivant. Alors, elle s'est occupée de sauver sa vie, ses possessions, c'est bien. Elle a protégé également les serviteurs qui étaient là, parce qu'eux aussi, ils allaient y passer. Hein. Tandis que monsieur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la fête. Il se saoule avec ses amis. Elle s'est humiliée, elle a pris sa culpabilité sur elle, mais lui, il fait ses exploits. J'ai renvoyé les gens de David à vide. Vous vous rendez compte? Ça, c'est un exploit formidable. Attends, le couperet, il est là. Hein, il va descendre, le couperet. Hein, oui, oui. Alors, comment Abigaïl a-t-elle réagi? Toi, là, le sou, là, viens là. Là, comme tu marches même pas debout. Hein. Je t'ai sauvé, tu vois rien. Non, non. Non, non, elle a rien dit, hein. Elle le laisse dormir. Excusez-moi, elle le laisse cuver son vin. Hein. Eh oui, parce que c'est la réalité, c'est ça. Hein. Elle attend le moment convenable avant de lui révéler ce qui s'est passé pendant que lui, il était hors de sens. Quelque part, là, c'est la folie pour d'ouvrir. Hein. Eh oui. Alors, qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Tout simplement que, finalement, l'amour ne frappe pas un faible. Parce qu'il était vraiment en position de faiblesse. Mais le véritable amour ne frappe pas quelqu'un qui est dans la faiblesse. Esaïe dit ceci, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Abigaïl, à ce moment-là, elle aurait pu le quitter. Elle aurait pu le laisser encaisser justement lui-même les fruits de sa propre folie. Non, non, elle ne fait pas ça. Elle ne l'abandonne pas. Elle lui reste fidèle. Elle le pardonne. Elle couvre ses péchés. Elle le protège. Formidable, non? C'est un exemple, hein? Eh oui. Alors Abigaïl ne laissait pas sa vie être conduite par le comportement de son mari. D'ailleurs, je reviens à ce que je disais. C'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre à côté, là-bas. Attends, tu es responsable. Tu es quand même intelligent, tu as quand même une volonté, tu sais pouvoir dire non. Là, on ne dit pas c'est toujours la faute de l'autre. Non. Alors, elle ne l'abandonne pas, elle lui reste fidèle. Elle ne se laisse pas emporter par le comportement inconséquent de son mari. Elle n'adopte pas ses attitudes, son comportement, ses péchés. Elle reste droite, malgré les circonstances, je dirais, désespérées et tristes. En cela, elle agit aussi comme le Seigneur. Le Seigneur lui reste toujours fidèle. Heureusement, hein? Heureusement. Il est toujours fidèle, il ne se laisse jamais corrompre. Il ne change jamais, il ne changera jamais d'ailleurs. Quelle que soit la situation, il reste toujours le même. Hein? C'est ce que dit l'Écriture. Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors nous, Sommes-nous fidèles seulement quand tout va bien? Facile, hein? Ah ouais. Ou également, quand il y a des contretemps, est-ce que nous savons rester fidèles? S'il y a une chose que Dieu finalement récompense, c'est notre fidélité. Ça, ça plaît au Seigneur. Matthieu 25, verset 23. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Il n'avait pas demandé à son serviteur de faire des exploits, simplement de faire fructifier ce qu'il avait reçu. D'accord? Et là, il a été fidèle. Et finalement, il a des récompenses, hein, plus que l'autre, bien sûr. Hein. Alors, la solution de Dieu, c'est le plus important pour nous. Quand je dis que la fin, c'est mieux que le commencement d'une chose. Eh oui. Dieu avait un plan pour Abigaïl. Hein? Et selon sa promesse, eh bien, il a tout fait concourir pour son bien, pour elle. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui est bon et ce qui est moins bon. Ou ce qui est rugueux, dur, lourd, pesant. Ça aussi, ça va concourir à notre bien. Pour nous façonner, nous former, pour nous aider à aller de l'avant. Pour tester notre fidélité. Amen. C'est important. Eh oui, oui. Alors Abigaïl n'a pas dû prendre les choses en main elle-même. Quelquefois, on veut régler la situation par nos propres forces, notre propre logique. Elle ne s'est pas servie des solutions du monde pour se défaire de son Nabal. Non, au contraire. Elle a persévéré dans la foi. Elle est restée fidèle au Seigneur. Elle est restée avec son mari. Et le Seigneur va la sauver de cela. Vous connaissez la fin de l'histoire ? Eh oui. Quand son mari s'est réveillé, elle lui explique. Tu sais à quoi tu as échappé? David était là. 400 guerriers. Armés, tous. Ils allaient te raccourcir. Voilà à quoi tu as échappé. Tu aurais tout perdu. Alors, Nabal, il entend ça. Oui, mais Nabal, quand il entend ça, il va être frappé d'apoplexie, c'est-à-dire qu'il va rester stoïque, pas stoïque, mais muet, incapable de bouger, de faire quoi que ce soit, parce qu'il est en train de réaliser ce qui s'est réellement passé. Ou sa folie l'a entraîné. Hein. Et vous savez, il est mort 10 jours après. 10 jours après. Oh, ah ouais. Paul dit ceci aux Romains, chapitre 12, verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. » Quelquefois, on aurait tendance à y mettre la main. Hein. Il ne voit pas le Seigneur ce que je subis, là. Il n'entend pas mes cris. Peut-être que le Seigneur veut le sauver, le méchant. Non ? Eh oui. Eh oui. « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. » Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. Êtes-vous une Abigaïl mariée à un Nabal? Oui? Non? Ne le dites pas. Mais si c'est le cas, Dieu va vous libérer de votre Nabal. Oh, pas en le faisant mourir d'apoplexie, hein? Parce que l'idéal, ce serait que... Il meurt à lui-même pour devenir une nouvelle créature. Et ça, Dieu est capable de le faire. Dieu est capable. D'ailleurs, c'est le seul. Amen. Et puis, il peut le remplacer par un David. Amen. Formidable, hein? Il ne s'appelle pas David, mais il va s'appeler Nabé. David, hein? Alléluia. Un homme disait, je ne m'appelle pas René. Mon père s'appelle René. Mais moi, j'ai dû renaître pour m'appeler enfant de Dieu. Mon père, qui s'appelle René, il n'est pas René. Vous voyez ? Bon, c'est un jeu de mots. Mais la réalité, elle est là. On est sauvé quand on appartient au Seigneur. Quand on est passé par la nouvelle naissance. Quand on a vécu tout simplement ce miracle quelque part, notre conscience s'éveille aux vraies valeurs. S'éveille tout simplement à la vraie vie. Amen. Notre centre d'intérêt n'est plus le même. Et c'est là qu'on vous regarde, on vous dit, mais qu'est-ce qui t'arrive à toi? Tu n'étais pas comme ça avant. Et on dit, alléluia, alléluia. Il ne lui reste plus qu'à m'appeler Jésus. Et là, on y est. Ben oui, parce qu'on tend à ressembler à Jésus. Hein? On te frappe, tu tends l'autre joue. Ça vous paraît pas évident, hein? Mais pourtant, moi, j'ai pas vécu ça, hein? Mais j'ai vécu autre chose. Hein? Mes collègues s'amusaient, on était en uniforme, vous savez, quand on est des pompiers, on a un uniforme. Hein? Et puis, ils me piquent ma casquette, ou mon pas un béret, mais un calot, là. Vous savez? Voilà. Ils me le piquent. Je prends mon veston que j'avais, je l'enlève, il dit, tiens, prends ça avec. Et je lui lance. Oh, ça va, on ne peut pas jouer avec toi. Hein? Non, on peut jouer, mais pas comme ça. Mais en tout cas, ça marche. Moi, j'ai fait l'expérience. Amen. Soyez gentils, soyez bons avec les autres, vous verrez. Quand vous riez un stop ou vous passez, vous êtes un peu dangereux pour les autres, faites un grand sourire. Faites un grand sourire, vous voyez, ça marche. La personne ne se calme de suite. Oui, faites, ah, oh! Et puis avec un grand sourire, vous lui dites, excuse-moi, excuse-moi. Et puis ça marche. Au lieu de se trouver avec une personne qui vous fait une queue de poisson, là, pour vous arrêter, vous empêcher d'aller plus loin, hop, ça marche. Alléluia, soyez bons les uns envers les autres, gentils. Amen. Alors, est-ce qu'elle n'est pas belle l'histoire d'Abigaïl? Dites-moi.